France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. En 1997, année du bicentenaire de la naissance de Franz Schubert, Mildred Clary proposait aux auditeurs de France Musique chaque semaine une émission intitulée « Le Wanderer ». À son micro, Mildred Clary recevait de prestigieux interprètes de Schubert, mais aussi des écrivains et des musicologues pour évoquer la vie et l'œuvre du compositeur. Je vous propose aujourd'hui et demain d'écouter les deux émissions que Mildred Clary avait réalisées avec le pianiste Alfred Brendel. Devant son piano, Alfred Brendel nous fait partager ses réflexions sur Schubert et plus particulièrement sur ses dernières sonates.
Winterreise, dixième Lied, Rast, Olaf Baer, Geoffrey Parsons. Aujourd'hui, c'est Alfred Brendel que nous écouterons tant par ses propos que par ses interprétations. Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de l'enregistrer alors qu'il parlait longuement des différents aspects des dernières œuvres pour piano de Schubert telles qu'elles lui apparaissaient. Mais je voudrais faire mention également de deux écrits importants et très approfondis qu'il consacre à ce compositeur. Le premier apparaît dans son livre intitulé « Réflexions faites » chez Buchet-Chastel. Et là, Brendel se livre à une sorte d'enquête afin d'éclaircir les raisons pour lesquelles l'œuvre de Schubert est demeurée si longtemps dans l'ombre. C'est une enquête qui s'appuie sur 7 préjugés tenaces. Les éléments de réponse qu'il rapporte sont les suivants.
1. Cette attitude a commencé du vivant de Schubert. L'homme faisait une impression insignifiante. Il ne ressemblait pas à l'image qu'on se fait du génie. 2. Schubert ne fut ni un virtuose, ni l'un de ces maîtres qui donnent naissance à une nouvelle tradition dans l'art de l'interprétation. 3. Exception faite de sa musique pour piano à quatre mains, la plupart de ses œuvres instrumentales n'ont été publiées qu'à titre posthume, et parfois même longtemps après sa mort. 4. Le chanteur Matthias Vogel sut convaincre le public des Schubertiades que Schubert était un génie du lied. On considérait Schubert comme un miniaturiste. S'ajoutant à son jeune âge, ce fait semblait rendre impossible qu'il pût maîtriser de grandes formes. L'épitaphe composée par Grillparzer résume l'opinion de ses amis. « La musique ensevelit ici un immense trésor et des espérances plus immenses encore. » 5. Le goût classique des mélomanes. La musique expansive, statique et imprévisible de Schubert contrastait avec la rigoureuse architecture beethovenienne et avec la clarté complaisante de Mendelssohn. 6. Le goût romantique. On se méfiait de l'emploi de formes manifestement conventionnelles. 7. Les œuvres pour piano allaient souvent au-delà des possibilités de l'instrument. De même, la symphonie en ut majeur ne correspondait pas aux effectifs ni aux habitudes d'exécution des orchestres de l'époque. Parmi les plus importants défenseurs de Schubert, Schumann, Mendelssohn, Liszt, Brahms, Dvorak, George Grove, seul Brahms avait des attaches avec Vienne. Que parmi les plus actifs admirateurs de Schubert, on trouve 5 des plus grands compositeurs du XIXe siècle, devrait faire réfléchir ceux qui persistent à penser que les capacités de Schubert n'étaient pas à la mesure de son talent. Liszt a vu très juste en disant « Ton charme est si grand » qu'il ferait presque oublier la grandeur de ton art.
deuxième mouvement de la sonate en la majeure, Deutsch 644, Alfred Brendel. Je faisais allusion tout à l'heure aux deux écrits importants consacrés par Brendel à Schubert. Le deuxième apparaît dans le livre qu'il a intitulé « Musique côté cour, côté jardin », toujours chez Buchet-Chastel. Et là, il s'agit plus particulièrement de la trilogie des dernières sonates. Celles-ci sont au centre des deux programmes, aujourd'hui et la semaine prochaine, mais j'ai d'abord demandé à Alfred Brendel de situer l'œuvre de Schubert dans le contexte de la Vienne de l'époque.
Schubert's Vienna was ready to accept Schubert's songs.
La Vienne de Schubert était prête à accepter ses leaders. En plus, il a eu la chance d'avoir le chanteur Vogel avec lequel il les faisait entendre dans des maisons privées, non pas dans des salles de concert. Et avec beaucoup de succès, bon nombre des leaders étaient publiés, ainsi que les œuvres pour piano à quatre mains, parce qu'il y avait une demande, mais ce n'était pas le cas pour les sonates. On estimait en avoir fait le tour déjà avec Beethoven. Ce n'était pas vraiment une forme romantique. Et après tout, Schubert est mort très jeune, à 31 ans. On estimait qu'il lui faudrait davantage de temps avant de pouvoir bien s'exprimer. On considérait ses sonates informes, trop longues, trop aventureuses, si tant est qu'on les connaissait même. Dans les journaux, il y a quelques commentaires sur les trois sonates publiées, mais je crois que personne ne les jouait, Schubert lui-même mis à part. Je ne pense pas qu'il ait jamais entendu personne d'autre jouer ces sonates, même en privé, afin qu'il puisse réagir sur ce qu'il avait fait. Il n'y a pas de tradition, lui-même n'était pas virtuose, nous le savons. N'étant pas professeur, il ne les a pas fait travailler à d'autres pour indiquer la manière de faire. Quant à sa musique instrumentale, elle est demeurée longtemps inconnue même de ses amis et admirateurs. Ce n'est qu'au cours du 19e siècle que l'on a découvert certaines choses, la symphonie en ut majeur, la grande, que Mendelssohn a créée à Leipzig, mais dans une version abrégée. Schumann a beaucoup admiré Schubert, on le sait. Il en a fait l'éloge dans sa revue musicale. Il aimait beaucoup certaines œuvres, mais malheureusement, il a été déçu par les dernières sonates.
Ces trois sonates sont considérées comme la dernière œuvre de Schubert, ce qui ne laisse pas de surprendre. Il est fort possible qu'une personne non informée de la date de leur composition eût porté un tout autre jugement, tout comme je les aurais sans doute moi-même rangées parmi les œuvres antérieures du compositeur, considérant toujours son trio en mi bémol majeur comme la dernière de ses œuvres et la plus schubertienne s'il en est. Il serait surhumain d'exiger d'un musicien aussi prolixe que Schubert qu'il fît toujours mieux et se dépassât. Il est donc fort possible que ces sonates soient les dernières œuvres écrites de sa main. Je n'ai pas pu savoir s'il les avait écrites pendant sa maladie. La musique semble pourtant l'indiquer. Il se peut que l'œil soit plus réceptif lorsque l'imagination est hantée par la pensée de la mort prochaine, de cette triste toute dernière fois. Quoi qu'il en soit, ces sonates m'apparaissent très différentes des autres. Elles sont plus simples d'invention et se caractérisent par un renoncement volontaire à toute brillante nouveauté. Alors qu'il avait toujours eu de si grandes exigences envers lui-même, il se contente de développer des idées musicales très larges, au lieu de tisser toujours de nouveaux fils de période en période comme il en avait l'habitude. Comme s'il ne pouvait y avoir de fin, sans jamais être gêné pour continuer, la musique toujours très chantante suit son cours de page en page, interrompue çà et là par quelques sursauts bientôt apaisés. Mon jugement n'est-il pas le jouet de mon imagination qui se représente déjà sa maladie? Des personnes plus calmes que moi trancheront. Ce fut pourtant l'effet qu'elles produisirent sur moi. Il termine avec gaieté, légèreté et amabilité, comme s'il pouvait tout recommencer le lendemain. Le destin en a voulu autrement. Il a pu attendre sa dernière heure le visage serein.
Je crains que ce ne soit ce jugement de Schumann qui ait été responsable, partiellement du moins, du fait que ses œuvres ont été aussi négligées, et ce jusqu'à une époque très avancée de notre siècle. C'est à Arthur Schnabel que l'on doit de les avoir révélées, qui en a enregistré quelques-unes, qui les a défendues, qui a informé les mélomanes que Schubert n'était pas qu'un compositeur d'œuvres vocales ayant composé en plus des sonates trop longues, mais que son langage était intensément dramatique. Il savait ces sonates très différentes de celles de Beethoven et il les jouait très différemment.
Thank you.
premier mouvement de la sonate en ré majeur Deutsch 850, interprété par Arthur Schnabel en 1939. Revenons aux réflexions d'Alfred Brendel.
The concept of form has changed.
Le concept de la forme a changé.
For Haydn,
chez Haydn,
was a kind of roaming around of springing
c'est surprises une suite de surprises qui se produit de manière très succincte.
Mozart's form, the constant proof of
chez Mozart,
that seems to
il y a
have
la
no
volonté d'une constante perfection qui semble exister
Beethoven's
sans but
form,
et sans contrainte. Chez Beethoven,
of order over chaos.
C'est l'ordre qui
also
triomphe du chaos,
of
aussi la manière de lier
form
la forme
and what it has to express.
À la volonté d'expression.
Now these classical forms define boundaries.
Ces formes classiques définissent des frontières.
Schubert's form is of a very different kind.
Chez Schubert, la forme est d'un autre ordre, elle s'ouvre à quelque chose.
A matter of propriety.
C'est une question de convenance.
It is a veil of order,
il s'agit,
to quote a word by Novalis,
comme dit Novalis, d'un voile d'ordre
shimmers,
sous lequel scintille le chaos, la plus belle musique du chaos que je connaisse.
This frame of mind which we appreciate much
et c'est un
better,
état d'esprit que nous pouvons mieux apprécier maintenant, je crois, que ne le pouvaient faire les mélomanes du 19e siècle, car nous avons vécu l'expérience d'un Bruckner et d'un Mahler. Ils nous font accéder à de vastes espaces musicaux en comparaison desquels Schubert nous apparaît presque économique.
Thank you.
Premier mouvement de la sonate en la mineur, Deutsch 784, Alfred Brendel.
I don't know whether it was a need, but it sometimes happens with great composers that they write several works at
once. Je me suis toujours intéressé au fait que plusieurs compositeurs, Schubert, Mozart, Beethoven, ont composé presque simultanément leurs trois dernières sonates et à chercher, dans ce cas, si ces œuvres sont très distinctes l'une de l'autre, ou si elles partagent certaines choses, si elles constituent une famille. Chez Schubert, les sonates ont un caractère très défini. Chaque mouvement est différent de l'autre. Mais le matériau déborde de l'une à l'autre. Il y a des concessions pas systématiques, comme chez Beethoven, où tout le matériel est présent d'emblée. La Passionata, par exemple, où tout découle des premières pages. Ce n'est pas le cas chez Schubert. Il s'agit chez lui d'une démarche plus arbitraire. Il profite plus tard du début de la sonate en ut mineur et sans doute inconsciemment. Il ne s'agit pas obligatoirement de savoir ce que l'on fait, c'est plutôt la manière dont s'épanouit l'imagination du compositeur. Et c'est très intéressant de suivre cet épanouissement et d'observer en même temps la manière dont s'exerce l'esprit critique du compositeur. Par exemple, voici deux thèmes de deux symphonies différentes de Mozart.
And the next one.
Puis, maintenant, l'autre symphonie dans laquelle Mozart a pris ses thèmes. C'est le début de la symphonie en mi bémol. On peut trouver beaucoup d'exemples de liens analogues. Chez Schubert, dans les trois dernières sonates, la relation entre les motifs déborde de la même manière que chez Mozart, de la même manière également que chez Beethoven dans ses dernières sonates. Il s'agit davantage de variantes que de citations précises. Il y a des domaines où se produisent certaines choses comme la quinte diminuée. Lorsqu'on regarde ces sonates, on voit que beaucoup de thèmes découlent de ce domaine-là, de la quinte diminuée. Vous allez comprendre. Je vais vous donner une succession d'exemples que je jouerai dans la même tonalité, ou plutôt dans la même relation de tonalité. La fa dièse mineur. Donc voici d'abord la formule quinte diminuée, suivie des exemples en question.
«
Ce qui nous ramène au début. Je viens donc de donner une sorte de variation en évolution. Une connexion latente s'avère plus forte qu'un lien manifeste, comme disait Héraclite. Je trouve que cela s'applique aussi aux formes musicales. Dans la musique, il existe des citations très évidentes, mais elles n'ont pas une grande signification pour la structure générale, car elles sont justement trop évidentes.
Thank you.
Le premier mouvement de la sonate en ut mineur, Deutsch 958 de Franz Schubert, bien sûr, est interprété par Alfred Brendel. C'est ainsi que s'achève ce premier chapitre des deux émissions réalisées à l'écoute d'Alfred Brendel. Des émissions qui nous amènent un peu plus profondément, sans doute, dans la recherche de ce qui fait que Schubert soit si particulier et que son univers nous soit si cher. Je le remercie vivement de donner ainsi voix à ses réflexions. Merci aussi à Michel Derville, lecteur des textes de Robert Schumann et d'Alfred Brendel, ces derniers publiés chez Bûcher-Chastel.
Manche Träne aus meinen Augen ist gefallen in den Schnee. Seine kalten Flocken saugen sich ein das heiße Weh, durstig ein das heiße Weh. Wenn die Gräser sprossen wollen, weht daher ein lauer Wind. Und das Eis zerspringt in Schollen und der weiche Schnee zerrinnt. Sag, wohin doch geht dein Lauf? Folge doch nur meinen Tränen, nimm dich bald das Bächlein auf, nimm dich bald das Bächlein Stadt durchziehen, muntre Straßen ein und aus. Fühlst du meine Tränen glühen, da ist meine Liebste aus. Da ist
le sixième lied du Voyage d'hiver de Franz Schubert avec Dietrich Fischer-Dieskau, accompagné au piano par Alfred Brendel. Ainsi s'achève le premier volet de cette émission qu'avait réalisé Mildred Clary avec Alfred Brendel en 1997, dont vous pourrez suivre demain la deuxième partie. Cette archive est disponible à la réécoute et au podcast sur le site francemusique.fr ou sur l'application Radio France. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation ainsi qu'aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration.
À réécouter sur francemusique.fr.